Monsieur Windisch, pour cet éclairage UV, vous avez noté une certaine véhémence des socialistes par rapport à l'abandon du français dans certains cantons suisses allemands, et donc ces mêmes socialistes qui crient au loup par rapport à une menace quant à la cohésion nationale.
Alors effectivement, vous voyez, la question des langues en Suisse revient régulièrement, constamment, sous un aspect ou sous un autre. Et là, tout à coup, n'est-ce pas, le fait que certains cantons alémaniques, on oublie, ils ne veulent pas supprimer le français, ils veulent le déplacer au niveau du secondaire. C'est déjà une nuance de taille, mais c'est surtout en l'occurrence le Parti socialiste qui est monté au créneau, que ce soit au Parlement ou, dans une deuxième étape, au niveau des chefs de l'instruction publique, notamment du canton de Vaud, d'abord, et de Genève. Alors, si vous voulez, rappelons peut-être que on dit souvent que la Suisse est plurilingue, mais pas les Suisses. Or, je pense qu'à un niveau très général, d'abord, il faudrait reconnaître que je pense que la Suisse est un des pays où il y a une très forte proportion de gens qui connaissent plusieurs langues, ce qui n'est pas le cas dans certains autres pays. Donc, reconnaissons déjà quelque chose de très important, un atout formidable. Et je voudrais aussi dire que, historiquement, la Suisse a très bien vécu, a tenu ensemble pendant longtemps sans que on insiste sur l'obligation d'apprendre la langue de l'autre, des autres. Donc, ce qu'on oublie, c'est que, et il faut insister là-dessus, certes, le plurilinguisme est un élément important, mais ce n'est en tout cas pas un élément qui menace la cohésion nationale. Ce que j'aimerais, ce sur quoi j'aimerais insister, si vous voulez, c'est cette dramatisation subite, notamment encore une fois de personnes du Parti socialiste, quand on dit qu'il en la question de l'école, c'est quelque chose de bien plus vaste. Il s'agit justement de la cohésion nationale. Et du côté du canton de Vaud, la chef nous dit que elle veut éviter un référendum au niveau national, car elle sait que nous serions perdants, en l'occurrence pour les Romands. Mais alors, écoutez, c'est quand même surprenant une chose comme cela. Si on est perdant, eh bien c'est quand même la démocratie qui fonctionne ainsi. Si on est perdant, c'est qu'il y a un problème qui préoccupe la population, et elle a des avis là-dessus. C'est donc de nouveau typique d'une vision bureaucratique, technocratique, socialiste, qui veut imposer une solution unique pour tout le pays. Et la Suisse ne fonctionne pas comme ça. La Suisse est d'abord, et je crois que c'est là qu'on trouve la raison d'être du bon fonctionnement en général, à part de petits problèmes, c'est le fédéralisme et le pragmatisme. Voyez, dire que la cohésion nationale est menacée à cause de cela, encore une fois, je suis pour, bien entendu, un apprentissage de langues multiples, mais tout le monde n'a pas besoin de trois ou quatre langues. Et ici, il y a un premier élément qui me semble fondamental. Je pense que la menace est beaucoup plus grande par rapport à la qualité de l'école, des dégâts qui ont été faits par le pédagogisme et les gardes rouges, n'est-ce pas, de ce pédagogisme, où on se trouve avec des jeunes qui sortent de l'école primaire et qui parfois ont de la peine à écrire correctement, à s'exprimer clairement. Ça, ce sont des qualités qui sont exigées même des apprentis. Et il est vrai qu'à ce niveau-là, il y a des lacunes importantes avec les innovations pédagogiques qui sont intervenues ces dernières années avec cette mode du pédagogisme qui s'est avérée très destructive. Voilà un exemple qui, non seulement, si vous voulez, prétérite la société, mais est donc aussi une menace par rapport à la qualité de formation. C'est quand même grave si l'école ne donne pas d'abord, ne permet pas à l'élève d'abord de connaître les choses les plus indispensables, savoir lire, écrire, compter. Donc voilà, me semble-t-il, des vrais problèmes. Et on parle aussi, vous voyez, la chef du canton de Vaud a parlé d'un risque de belgisation. Écoutez, en Belgique, c'est clair et net que les Wallons et les Flamands sont carrément au stade où ils se détestent. Ils refusent de parler la langue de l'autre. C'est pas du tout notre cas. Il y a un manque de connaissances. Et ensuite, il y a une autre règle générale que ces jours, puisque le débat dure, qu'il faudrait certainement rappeler, c'est qu'en Suisse, plus, il y a une règle générale très intéressante, plus on est minoritaire, plus on connaît de langues. On devrait rendre hommage aux Romanches et aux Tessinois qui savent 3-4 langues et qui n'ont pas de préjugés envers le dialecte alémanique, qui apprennent les langues, et cela aussi, vous voyez, c'est un exemple du fédéralisme. Ensuite, la Suisse est un extraordinaire laboratoire linguistique et anthropologique. Dans les cantons bilingues, on pourrait en parler des heures. Avec un groupe de recherche, j'ai fait des travaux qui ont donné lieu à un ouvrage en 2 volumes de 1200 pages pour montrer comment, dans la vie quotidienne, les majoritaires et les minoritaires alémaniques et romans s'arrangent concrètement pour trouver des solutions. Et c'est très variable d'une commune à l'autre. Alors si tout à coup vous voulez imposer une seule voix, c'est là qu'on met le feu aux poudres. Donc partons des réalités concrètes, des situations concrètes. Il y a des dizaines et des dizaines d'années qui ont été nécessaires pour mettre en place des pratiques. Je pense que ces personnes qui veulent fonctionner par ukases fédéraux, nationaux, comme dans les pays centralisés, devraient visiter les cantons, par exemple les cantons plurilingues, Fribourg, Le Valais, Berne. On a trouvé des modalités extraordinaires du savoir-vivre intercommunautaire et interlinguistique. Ici intervient aussi le principe de territorialité. Vous voyez, par exemple, en Valais, selon le principe de territorialité, il ne devrait pas y avoir d'école allemande à Sion. Or, les deux communautés se sont entendues, on est pragmatique, on respecte l'autre, on trouve des solutions concrètes. Imaginez que là aussi on dise « le principe de territorialité interdit cela », ça serait de nouveau mettre, n'est-ce pas, le feu dans des situations où en réalité ça marche très bien. Par rapport au Tessin, voyez-vous, là il y a un vrai problème qui menace la cohésion nationale, le fait qu'on néglige le Tessin, qu'on a négligé ses problèmes, on l'a vu lors de certaines votations, où le Tessin a voté de manière diamétralement opposée à la Suisse, eh bien voilà, c'est d'eux qu'il faudrait s'occuper en priorité, et voyez, si on suivait ces ukases, eh bien nous devrions tous les Suisses, apprendre immédiatement l'italien pour venir au secours des Tessinois et éviter pas d'entamer la cohésion nationale. Or, les choses ne se passent pas ainsi. Il y a aussi quand même, on peut s'étonner un petit peu, vous voyez, quand on dramatise à ce point un alarmisme formidable par rapport à cette question des langues, il y a d'autres questions qu'on pourrait opposer aux socialistes, et où, avec certaines de leurs propositions, certains de leurs comportements politiques, la cohésion nationale est bien plus menacée que le fait que le français, encore une fois, n'est pas refusé, mais déplacé, n'est-ce pas ? On ne peut quand même pas l'oublier. Nous sommes en ce moment dans une phase où des acteurs, comme les socialistes et d'autres, mettent en cause la démocratie directe, met en cause des votes démocratiques, eh bien ça va créer des tensions, ça va menacer la cohésion nationale. Voilà un parti qui représente le quart de la population, qui est à 100% pro-européen, alors qu'une grande majorité de la population n'est pas dans ce sens-là, et que l'Union européenne est de plus en plus critiquée. Bien des gens n'en veulent plus, et bien vouloir forcer la Suisse à rentrer dans l'Union européenne, Voilà qui va créer des tensions. Voilà qui, par conséquent, sera une menace pour la cohésion nationale. Les socialistes aussi sont pour la suppression de l'armée. Imaginez les conflits que cela créerait si véritablement de sérieuses menaces arrivaient. Donc, si vous voulez, je trouve qu'on utilise, il y a là une tentative, sans doute d'un parti qui est en difficulté, en vue des élections de 2015, une tentative de récupérer, de politiser, d'idéologiser un problème qui est à résoudre canton par canton, région par région, et j'ajoute commune par commune. Dans le canton de Fribourg, pour prendre juste cet exemple, dans chaque commune, les proportions d'alémaniques et de francophones varient, et il y a des solutions très différentes qui ont été choisies, même avec des proportions identiques. Ça, c'est la personnalité politique et culturelle de base de la Suisse, encore une fois, fédéraliste, pragmatique, où la population a son mot à dire avec notre démocratie directe, qui n'existe pas qu'au niveau national, mais avec la participation des personnes. Alors bien sûr, si on interroge des romans de manière très générale, on supprime le français en Suisse allemande, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est scandaleux? Tout le monde va dire oui. Mais ce n'est pas du tout ça la réalité. Si on leur demandait, est-ce que vous ne trouvez pas que les jeunes, certains jeunes, et surtout quand vous avez des jeunes dont ce n'est pas la première langue, qui des jeunes enfants immigrés, ben la première chose, ce serait qu'ils apprennent bien la langue de la région où ils sont et que, comme je le disais, que dans les milieux défavorisés, on ait les compétences élémentaires que l'école a apportées autrefois, sur lesquelles on insistait, et non pas toute une série de cours tout à coup sur des problèmes sociétaux où on pense qu'il faut parler des genres déjà à l'école enfantine. Là, on pourrait dire qu'il y a aussi un risque de conflit qui, on le voit déjà maintenant, les conflits qui se développent à partir de questions qui ne sont pas du tout essentielles dans un pays comme la France sur ces sujets dits de sociétaux. Je pense que il y a aussi une forme de méconnaissance carrément des caractéristiques, des fondements essentiels de la Suisse, quand on veut tout à coup, et vous voyez qu'au niveau fédéral, le conseiller fédéral socialiste, n'est-ce pas, sans toutefois l'affirmer abruptement, n'attend que le moment de décréter une loi nationale, fédérale, depuis le Conseil fédéral. Ça serait mettre le feu aux poudres. Ce n'est pas la manière dont a fonctionné la Suisse, ce n'est pas ainsi que la Suisse tient ensemble, et je le rappelle, même si je suis vraiment pour un apprentissage et trouver toutes sortes de démarches et de méthodes pour stimuler l'apprentissage des langues. Mais pour apprendre une langue, il faut en avoir en plus une image positive, ce qui est souvent pas du tout le cas chez les francophones, de l'allemand ne parlons pas du dialecte. On sait que pour apprendre une langue, si on n'en a pas une image positive, on aura beaucoup de peine à la comprendre. Et ensuite, vous voyez, on a aussi dit qu'il fallait qu'on l'apprenne précocement. C'est pour ça qu'il fallait très vite garder le français à l'école primaire. Mais on sait maintenant, mais depuis longtemps, Piaget a montré qu'un enfant, au niveau cognitif, que la maturation se faisait progressivement. On n'enseigne pas certains thèmes ou problèmes mathématiques à des enfants de 7, 8, 9, 10 ans. On sait parfaitement qu'il y a des choses qu'on ne peut cognitivement comprendre que vers 12, 13, 14 ans. Il en va apparemment de même avec les langues, contrairement à ce qu'on croyait. Mais il est vrai qu'une initiation au son, à des sons d'autres langues, développe un certain nombre de compétences. Donc voilà un exemple où on surjoue complètement et on récupère un problème qui, disons, existe, mais rappelons que peu de pays, dans peu de pays, les gens sont aussi intéressés et connaissent relativement bien, en tout cas une deuxième langue, voire une troisième, et peuvent parfaitement aussi apprendre l'anglais, même si, je le répète, ne prôner que l'anglais, comme on l'a fait du côté de l'école politique fédérale, n'est pas non plus du tout une solution pour tout le monde, ça convient à un milieu bien déterminé, milieu étudiant, intellectuel. Eh bien là aussi, voyez, à la cohésion nationale, il faut ajouter la cohésion sociale. Il faut que chaque milieu social, qu'on s'adapte aux nécessités et aux exigences, aux compétences qui seront nécessaires aux différents milieux sociaux.
Vous avez dit fédéralisme, pragmatisme, peut-être un peu trop pragmatique, plus personnel et subjectif. Il y a ce chercheur neuchâtelois qui propose une Suisse à 13 cantons. C'est d'ailleurs assez socialiste comme façon de faire.
Oui, alors écoutez, n'est-ce pas? Il y a régulièrement des tentatives de, on ne se rend pas compte, de diminuer le nombre de cantons, de dire que 22 cantons plus les demi-cantons, c'est beaucoup trop. Mais de nouveau, c'est extraordinaire cette difficulté à comprendre quels sont les fondements réellement essentiels de la Suisse et de son fonctionnement et des raisons pour lesquelles elle a tenu le coup au cours de l'histoire. Souvenez-vous tout récemment, ceux qui voulaient unifier Genève et Vaud. Mais c'était une minorité technocratique, bureaucratique. C'était nier des histoires spécifiques, des cultures spécifiques. On peut très bien collaborer beaucoup entre cantons, entre régions, mais de là, cette vision centralisatrice qui certes existe en France est absolument non pertinente chez nous, contrevient au modèle essentiel, à ces pratiques quotidiennes de gestion d'un pays plurilingue, plurireligieux, pluriculturel. Ça ne peut pas fonctionner ainsi. Alors, on se dit, voilà, il faut réduire le nombre de cantons, créons des régions. Mais c'est faire fi des spécificités culturelles, politiques, linguistiques de toutes ces régions. On peut parfaitement, et vous savez, à partir du moment où on casse la vie sociale qui a été créée au niveau local, communal, intercommunal, régional, au moment où on casse cela pour mettre des superstructures administratives et politiques et bureaucratiques, eh bien, on ne se rend pas compte qu'on supprime la vie sociale qui existe au niveau local, en Suisse, il faut le dire comme ça, on oublie qu'on peut être à la fois patriote communal, patriote cantonal, patriote fédéral, et moyennant bien sûr une structure encore plus large, mais qui respecte les pays, en l'occurrence, on pourrait très bien imaginer des coordinations entre pays qui se font de toute façon au niveau économique de manière massive, contrairement à ce que nous disent certains, qui ne rêvent que d'union politique, sans se rendre compte que cela entraîne aussi de la destruction réelle et de vrais dangers lorsqu'on ne tient pas compte de modes de vie locaux, régionaux, qui se sont construits au cours des siècles, lentement, tranquillement, surmontant des difficultés, des problèmes, des conflits. Donc, on a là une autre vision, comme vous le disiez, bureaucratique, technocratique, centralisée, et qui vient souvent d'une vision, en effet, socialiste, qui attache une grande importance, ou plutôt qui néglige beaucoup, le patriotisme guidé qu'il est souvent par l'internationalisme. Et n'oublions pas que le patriotisme est très souvent connoté chez les socialistes comme étant un facteur propre aux conservateurs, ce qui est une autre absurdité, bien entendu.
Je vous remercie, monsieur Windisch.